Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet écho des rencontres du légendaire qui se sont déroulées les 9 et 10 novembre dernier dans le cadre du Festival du Légendaire. L'édition 2019 était celle des 20 ans de cet événement eurélien organisé par la compagnie AMSA, événement qui vous permet chaque année d'explorer le conte et l'imaginaire sous toutes ses formes. Radio Grand Ciel était partenaire des rencontres de l'imaginaire et a assuré la captation sonore des tables rondes proposées au cours de ce week-end. Le thème du festival cette année était la métamorphose. Retrouvons tout de suite le romancier Alain Damasio, l'un des invités d'honneur de cette édition 2019, un autre romancier François Coupry, également Andrea Zubial, fondatrice de Why Stories, le laboratoire des arts de la narration, et puis deux conteurs, Bruno de la Salle et Henri Gougaud, par ailleurs parrain des rencontres du légendaire. Ils échangent autour du thème suivant, le pouvoir du récit et la métamorphose du réel. Pour animer les débats, le romancier Alain Apsir, administrateur de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, est lauréat en 1987 du prix Femina.
Nous allons donc démarrer les rencontres du légendaire en réfléchissant tous ensemble et en nous exprimant oralement tous ensemble sur une thématique qui paraît un petit peu complexe, le pouvoir du récit et la métamorphose du réel, mythe, légende, storytelling, rumeurs, fake news, etc. etc. Je vais vous présenter nos intervenants au fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Bernanos a écrit « Ôtez la fiction et il ne restera plus rien du réel ». Alors c'est une citation qui est assez passionnante parce qu'elle sous-entend beaucoup de choses à la fois. D'abord que probablement tout peut se raconter, pour de vrai, pour de faux. Mais qu'en même temps, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut sortir du réel repose sur des interprétations, sur une sorte de fictionnarisation de l'humanité. En quelque sorte, les auteurs, les conteurs que nous serons là pour donner un sens peut-être à ce qui n'est pas logique sans nous. Mettre le réel en forme, mettre le réel en discours, un réel qui peut-être n'existe pas en soi, mais en moi. Alors je vais me tourner pour commencer notre réflexion collective vers Alain Damasio. Alors, longue biographie déjà, petit poète, donc poète visuel, avec caractère ludique, humour, dérision, mise en scène du signifiant, mais aussi, bien sûr, et peut-être surtout, écrivain de science-fiction, Grand Prix de l'Imaginaire en 2006 pour La Horde du Contrevent, 2018, publication, j'adore ce titre, Serf Medman, où très beau titre, où la créativité discutable de Nolan Peskin, prix SACD Création numérique pour Remember Me, grand prix de la fiction radiophonique de la GDL qui nous est cher à François Coupry et à moi pour Fragments hackés d'un futur qui résiste, etc. etc. Et aujourd'hui, enfin hier, en avril dernier, vous avez publié un roman d'anticipation et bande-son originale, vous allez vous en parler un peu, dont le titre est « Les furtifs ». Alors, qu'est-ce que c'est « Les furtifs » ? Je pense que c'est intéressant de commencer comme ça, parce que je pense que ça peut être un zoom avant sur notre thématique, la dystopie politique. Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous ? Et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire et le récit pour vous ?
Alors, les furtifs, donc bon, le roman se passe en 2040, mais les êtres dont il est question, qui s'appellent donc les furtifs, qui donnent le titre au livre, sont des êtres vivants qui cumulent les dimensions végétales, animales et minérales, qui sont composés d'éléments extrêmement hétérogènes, mais qu'ils arrivent à relier par une sorte d'ADN sonore, puisqu'ils sont faits de chair et de son. C'est une sorte de mélodie fondamentale qui les fonde et à partir de laquelle ils arrivent à mettre en résonance la matière et donc à se composer constamment avec l'environnement. Donc moi c'était une sorte de mythe un peu, puisque dans le livre lui-même, en 2040, c'est considéré comme une légende urbaine. Hein, on ne sait pas s'ils existent. Ils sont censés exister dans l'angle mort de toute vision humaine, à un endroit où les gens ne regardent pas. Et on se rend compte au fur et à mesure du livre que justement je joue sur le légendaire et le réel, puisque cette légende devient complètement concrète et j'espère crédible. Donc c'était, enfin voilà, pour moi c'était en tout cas une incarnation des plus hautes formes de vie qu'on puisse atteindre. Et puis c'était métaphoriquement l'envers du contrôle, l'envers de la trace, puisqu'on est dans un monde, comme vous le savez, excessivement tracé, excessivement quadrillé, où le moindre de nos actes en ligne et sur les réseaux se laisse des archives qui sont utilisées contre nous, on va dire, en tout cas pour nous vendre des choses. Et donc c'était l'intraçable, voilà, les furtifs étaient l'incarnation de ce qui ne pourrait pas être suivi, tracé, contrôlé, qui échappait en permanence à ce type de pouvoir. Ouais.
Mais c'est une sorte de mise en récit quand même d'une anticipation malgré tout, mais d'une anticipation qui puise ses racines dans le réel d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cette anticipation ? Est-ce qu'il s'agit, enfin moi je le sais, mais pour notre public, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de mise en avant d'un danger, enfin d'une menace?
Ouais,
danger,
oui,
le mot n'est pas assez fort. Menace, le mot n'est pas assez fort. Il faut trouver un autre mot encore.
Ah oui, en tout cas d'un système de pression extrêmement, extrêmement présent dès aujourd'hui, hein, puisque là j'ai fait l'anticipation à très court terme. 2040, quand on écrit une science-fiction, c'est le présent, quoi. C'est un décryptage quasiment du présent, de l'actualité. Je joue le rôle classique aussi en science-fiction d'alerte. Hein. On est un genre qui aime alerter, mettre en jeu les menaces les plus féroces qui nous travaillent et qui sont. Alors parfois c'est des signaux faibles, hein, comme on dit, mais là c'est pas des signaux faibles, c'est des tendances lourdes, hein, qui sont là, le big data, etc. Donc c'est effectivement pour essayer en tout cas de secouer le lecteur, de l'immerger dans un récit où il se rend compte de ce que ça va produire en 2040, ce monde-là, si on le pousse un tout petit peu plus loin, notamment les villes privatisées, les villes appartenant à Orange, à LVMH, étant gérées sur des systèmes de forfaits standard, premium, privilège. Et même pas, on paye plus l'impôt, on paye un forfait, et les zones de la ville sont découpées en fonction du niveau de vie, du niveau de forfait que vous avez. Voilà, on porte des bagues, des bijoux connectés. Enfin, on est dans un monde où il y a énormément de capteurs, de senseurs. Donc c'est tout ça que je mets en scène pour dire, ben voilà, tranquillement, si on se laisse aller doucement sur la pente où nous mène ce régime-là, on arrivera à ce type de ville et de société. Et il faudra bien trouver un moyen de tenter d'y échapper.
C'est une interprétation de notre réalité, c'est bien ça, pour vous c'est ça, c'est-à-dire que vous faites récit finalement de vos craintes, de nos craintes, parce que ces craintes nous les partageons, vous les nommez, ça veut dire que il me semble qu'à partir d'un travail comme celui-là, le rôle d'un auteur de fiction, d'un raconteur d'histoire, il dépasse le simple fait de la création. Il me semble qu'on va au-delà. Vous pensez que vous voyez comme un prophète un peu, ou c'est un prophète de malheur ou pas du tout?
Non, moi en plus j'aime pas le rôle de Cassandre, enfin personne n'a le rôle de Cassandre, je pense, mais non, moi je travaille sur cette idée de sorte d'hypertrophie du réel, d'hypertrophie du présent. C'est des choses qui sont là, qui sont présentes. Moi j'habite Marseille, je peux vous dire qu'il y a des zones de la ville entièrement, des îlots urbains qui sont entièrement inaccessibles, qui appartiennent aux riches, hein, qui sont des copropriétés, qui fait que vous pouvez pas traverser tout un ensemble de rues directement. Donc cette façon dont on nous prive de l'espace commun que devrait être la ville, c'est quelque chose qui moi me frappe et qui est déjà là. Maintenant, c'est très intéressant, en science-fiction on fait ça, c'est-à-dire qu'on a souvent des champs métaphoriques qu'on plaque dans le réel, c'est-à-dire qu'on transforme des métaphores en réalité crédible, on appelle ça la vérisimilitude, quoi, c'est-à-dire comment rendre crédible, cohérent, consistant et ancré dans ton récit des choses qui a priori sont complètement impossibles ou difficiles, comme l'existence des furtifs ou comme ces villes privatisées. Donc on a, moi je dis des fois, parce que c'est un peu pourri comme jeu de mots, mais on n'est pas des réalisateurs de métaphores, on est des réalisateurs vraiment, c'est-à-dire qu'on descend dans le réel tout un ensemble de choses qui au départ peuvent paraître complètement lunaire, quoi. Donc,
Vous vous nourrissez en quelque sorte du réel pour donner vie à un avenir, en fait.
Bien sûr, ouais.
À tout ça à travers le récit, on est bien d'accord.
Ah bah, le récit fondamental, parce que on se rend compte que bon, je pourrais faire un article, par exemple, là-dessus, un article technique en montrant comment l'addiction numérique va s'étendre, etc. Comment l'ergonomie, par exemple, du smartphone va certainement se réduire vers la bague, vers... Comment le casque va devenir des oreillines, comment le micro va devenir un piercing. Bon, on pourrait faire des textes d'ergonomie, de design, de prospective, mais effectivement, ça ne véhicule aucune force au sens où tu ne fais pas descendre les choses dans les percepts, dans les affects, dans la sensation, dans une certaine forme de sensualité. Et surtout, tu n'as pas ce vecteur extraordinaire que connaissent bien sûr tous les conteurs, qui est l'identification possible à un personnage. Ce véhicule incroyable de l'émotion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'identifie effectivement à quelqu'un, ce qui se produit sur cette personne, ce qui lui arrive, ce qu'elle fait, ce qu'elle endure, tu le reçois en pleine poire, en plein corps, en pleine chair, et tu vis à travers le récit ce que cette personne vit. Donc cette espèce d'aimantation fondamentale vers le personnage, qui est vraiment la clé pour moi du récit, de tout récit, elle est décisive, et encore plus en science-fiction, je dirais, parce qu'on est sur des mondes qui sont parfois flottants au niveau de la crédibilité. Donc on a besoin de cet ancrage très sensuel, très direct du personnage.
Et de donner un sens non seulement au présent, mais à l'avenir, par le récit.
Oui, par anticipation. C'est-à-dire que du coup, tu essayes de reprendre une petite longueur d'avance possible en se disant, là on a pris par exemple, typiquement notre génération, 95, l'arrivée des réseaux, de l'Internet, de tout ça. On prend toute cette vague dans la tête, on vit à l'intérieur de ce monde. On n'a pas eu le temps de l'anticiper, on n'a pas eu le temps d'essayer de s'en protéger. Je pourrais parler des heures, mais je ne connais pas un parent qui n'a pas un problème pour gérer le rapport au smartphone de ses enfants. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'éducation possible, il n'y a pas eu d'anticipation possible de ça. Donc des fois en SF, on dit, tiens, on va essayer de reprendre une petite longueur d'avance au moins pour essayer de conjurer ou de parer à ce qui peut arriver de plus négatif. Ouais.
Bon, y a des grands l'ont fait, Orwell, enfin, c'est quelque chose. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit du retentissement que ça a. En fait, vous êtes un conteur missionnaire un peu, là.
Je ne sais pas. On est en mission. Enfin, moi, je me sens des fois en mission, oui, mais de façon... En tout cas, politiquement, oui, j'ai un engagement très fort qui fait que je considère qu'à partir du moment où tu as une parole publique, où effectivement des gens lisent ce que tu fais ou écoutent ce que tu fais, comme ce soir puisqu'on va le jouer, il y a une responsabilité de dire qu'est-ce que je fais de cette parole et en quoi cette parole peut aider tout simplement à vivre mieux ou à essayer de dévier les courants majoritaires vers des zones qui me paraissent moi désirables, vers des horizons qui me paraissent désirables et pas vers cet horizon d'hyper-individualisme fermé en monade dans lequel on va dans cette espèce de techno-cocon, moi j'appelle ça un techno-cocon, espèce de chrysalide comme ça, de fibre optique dans lequel on nous enchasse et dans lequel on adore se laisser enchasser puisqu'on est choyé, cajolé par ces techno-cocons. Mais voilà, comment déchirer la chrysalide, comment essayer de retrouver ce que j'appelle le vieux miracle du face-à-face ou le vieux miracle du corps-à-corps. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'essaye de mettre en place avec un art du conteur, je vais dire pour l'instant tout à fait écrit, mais qui essaye de se servir du récit pour amener à ça. Ouais.
En fait, vous n'êtes pas vraiment conteur pour nous émerveiller, mais pour nous éveiller.
Ah oui, ça c'est clair que... Voilà. Il y a une dimension, dans les furtifs, il y a une dimension liée au merveilleux fantastique, un peu, on pourrait dire ça. Et il y a une poésie, mais effectivement, ma première... en tout cas, ce qui me pousse à écrire un livre, très souvent, est lié à cette envie de secouer, de réveiller, de dire, attention, on peut pas aller plus loin dans cette direction-là, sinon c'est catastrophique, quoi.
Dernière question, vous revendiquez cette... Enfin, j'aime pas le mot étiquette et je pense que vous le détestez autant que moi. Mais enfin, c'est cette connotation, cette aura comme ça d'auteur de science-fiction, de conteur de science-fiction. C'est bien, ça vous fait plaisir qu'on vous dise ça
ou... Alors, ça
vous trouvez
plaisir,
ça réducteur
Non, pas du tout. Ce que je revendique vraiment, c'est l'importance de la science-fiction dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai une définition très simple de la science-fiction. C'est vraiment, science-fiction, pour moi, c'est la façon dont on restitue ce que la technologie fait à l'homme. Voilà. Et comme on est à une époque, vous pouvez le vivre tous, on est à une époque où notre rapport à la technologie n'a jamais été aussi intense, aussi quotidien, aussi omniprésent, ne serait-ce que par le smartphone que vous avez constamment dans la poche, sur la table de nuit, etc. Comme on est à l'acmé, à mon sens, de cette courbe technologique, ce que la technologie fait à l'homme, donc ce qui est le cœur de la science-fiction, est devenu complètement central. Donc pour moi, c'est un âge d'or de la science-fiction nécessairement. Je ne peux pas le dire autrement parce qu'on est obligé d'affronter ces enjeux-là et de dire, par exemple, qu'est-ce que le smartphone fait à notre façon de travailler, de vivre, de se rencontrer, de draguer, de mourir, de... Voilà, qu'est-ce que ça produit sur ce qu'est l'homme, sociologiquement, politiquement, psychologiquement, anthropologiquement? Qu'est-ce que la techno fait à l'homme? Voilà, comment l'homme se réinvente par la technologie? Et ça, bah, c'est le cœur de notre époque, on est au cœur de ça. Donc, il me semble qu'on est plus apte, ou en tout cas plus à même, de parler de ce monde si on l'aborde par le champ de la technologie que par d'autres champs. Voilà, donc moi, j'ai l'impression que c'est central. Donc, ça me paraît naturel que la SF soit... reprennent une importance majeure. Mais alors les gens vont dire ouais, mais tu milites pour ta chapelle. Non, moi je m'en fous, moi, d'être à l'ASF ou de faire du... Moi j'ai fait de la fantasy avec la Horde du Contrevent, je peux faire du fantastique, je peux faire plein de choses. Mais je trouve que si on parle d'enjeux politiques centraux, la science-fiction est vraiment idéalement placée pour en parler aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas exclure l'importance du numérique, du digital dans nos vies et ce que ça produit sur nous, quoi.
Merci beaucoup. François Coupry, je vais te dire vous, parce que en débat, je ne sais pas faire autrement. Donc, je vais te dire vous.
Dis-moi vous.
Ne te fâche pas, je te dis vous. Donc, François...
Ça me trouble beaucoup, quand même.
François, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez été journaliste littéraire, éditeur. Nos chemins se sont croisés il y a plus de 40 ans à cette occasion.
Eh oui.
Vous avez été le premier directeur de la Maison des Écrivains. Vous avez été, comme moi, mais avant moi, président de la Société des gens de lettres. Vous êtes cofondateur de la SOFIA, plus que moi, mais vous l'êtes, que vous avez présidé Record du Monde pendant 7 ans, 4 ans puis 3 ans. Mais vous êtes aussi l'auteur d'une cinquantaine de livres, essayiste, conteur, romancier. Je suis lesbien, éloge du gros dans un monde sans consistance, taureau de mort, le rire du pharaon avec Akhenaton ressuscité par 3 enfants américains. Moi, je tiens à dire que c'est un de mes livres de chevet depuis plus de 40 ans. J'adore ce livre. Où est le vrai Louis XVI plus récemment? Voilà. Et vous avez... alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on vient d'entendre. J'ai relevé une citation de vous. « Je ne sais pas trop ce que veut dire la littérature, mais je sais ce que signifie raconter des histoires. » Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous faites une différence entre la littérature, l'auteur de littérature, et le raconteur d'histoires?
Oui, il y a eu toute une différence quand même à une certaine époque où... l'histoire en tant que telle, le mouvement narratif et tout ça, les personnages, étaient un peu méprisés dans une certaine littérature. Donc c'est pour ça que je me suis permis cette phrase. Voilà. Moi, je suis très intéressé par ce que vous venez de dire, parce qu'on est dans les mêmes eaux. Moi, je travaille sur le merveilleux. Et qu'est-ce que ça veut dire, le merveilleux? Ça veut dire de poser a priori un monde qui n'existe pas. Or, nous sommes aujourd'hui dans une civilisation qui est obsédée, jusqu'à l'hystérie, par la vérité. Est-ce que c'est vrai? Qui a très peur des fausses informations, etc. Mais qui passe son temps à dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Hein? Et beaucoup d'auteurs commencent leur propre discours en disant « Et en plus, c'est une histoire vraie. » Ce qui, moi, m'horripile, parce que c'est complètement... Ben, j'ai chaque fois envie de partir. Alors, je me pose un peu à l'inverse de tout ça, puisque moi, j'écris des livres où le narrateur n'arrive pas à mourir depuis 2000 ans, où... le travail n'existe plus et est complètement dissocié de la notion de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il suffit d'aller dans une banque où on vous donne de l'argent, etc., etc. Bon. Ou un monde où le héros a beau tuer des gens, il n'arrive pas à être condamné, il n'arrive pas à être mis en prison. Et il doit même prendre un avocat pour persuader les éventuels juges de sa culpabilité. Voilà. Donc, on est dans un monde... qui n'a pas les mêmes lois physiques, morales, que notre monde actuel. Et dans un sorte de retournement paradoxal, je dirais que j'affirme que je raconte que je dis est faux, okay, mais j'écrirai un roman réaliste qui décrirait, où je m'efforcerais de décrire véritablement la réalité, comment ça marche, comment ça fonctionne, ce serait tout autant faux. Ce serait tout autant faux, et c'est là, à mon avis, le paradoxe de notre monde et d'une sorte de réalité humaine. Le paradoxe d'une sorte de réalité humaine, c'est que tout récit ment forcément. Il ment forcément parce que le réel est impossible à dire. C'est trop vaste, trop compliqué. Essayez d'écrire ce qui se passe en une minute. Honnêtement, au bout de 50 pages, vous ne seriez pas arrivé parce qu'il y a tellement de connexions, tellement d'odeurs, tellement de choses qui vous sont passées par la tête, etc., etc., que c'est impossible à raconter. Donc on est obligé de simplifier, hein. On est obligé de se murer dans les contours de la narration et dans les contours classiques de la narration. Si bien que forcément, on est très éloigné du réel. Ce qu'on écrit est finalement ce qui a déjà été dit, de la façon... Alors, on change un adjectif ou deux, etc. Bon, on croit qu'on a fait que c'est très nouveau ce qu'on a fait. Mais on reste toujours blotti, caché, derrière une grammaire qui n'est pas du tout de l'ordre du réel, derrière des façons d'articuler une phrase qui ne reproduisent absolument pas le mouvement du réel, même Virginia Woolf. Hein. Et donc, on est tout autant dans le pas vrai, le faux, disons, que quand on écrit la vie de quelqu'un qui n'arrive pas à mourir depuis 2000 ans. C'est aussi éloigné de la vérité, qui est impossible à dire. Mais le récit crée, recrée, aménage ce réel qui est impossible à dire. Sans récit, il le structure, il lui donne du sens. Mais que ce soit dans le récit le plus réaliste, encore une fois, ou que ce soit dans les récits les plus imaginaires, entre guillemets, ou merveilleux, entre guillemets. Donc, de toute façon, quitte à raconter n'importe quoi et quitte à recréer le monde, vaut mieux s'amuser et recréer un peu en oubliant de faire mourir les gens.
En fait, vous racontez le monde d'un point de vue anormal. Enfin, je crois que cette anormalité, elle est très importante pour vous. Ben oui, le récit, c'est sans doute avant tout la mise en forme de ce qui préexiste, mais en même temps n'existe pas sans lui, parce que c'est une espèce de puzzle. Ce sont des pièces éparpillées qui n'ont de signification qu'avec l'intervention d'auteurs, de conteurs, comme nous tous.
Ou de journalistes. Je mets tout le monde.
Mais le journaliste est un conteur, voilà. est un raconteur. En tout cas, un raconteur.
Le journaliste, ça choque beaucoup, surtout quand je dis ça, surtout à cette époque-là où tout le monde est tellement accroché. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette histoire est vraie ? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner une forte information ? Eh bien, si, nous passons notre temps à lire et à donner de fausses informations.
En tout cas, des informations, des interprétations de la réalité.
Mais ça va plus que l'interprétation. Non, ça va plus loin. C'est pas une question d'interprétation. C'est plus qu'une question d'interprétation. C'est possible que nous ne pouvons pas sortir d'une manière de raconter qui ne peut dire vraiment le réel.
Mais bien sûr. Alors, juste un petit mot pour terminer. Vous êtes l'un des fondateurs aussi, vous êtes un grand fondateur, hein. On a vu ça fonde sans arrêt, de la nouvelle fiction, qui est un courant, une sorte de courant littéraire. Et j'aimerais que vous nous en parliez un peu, parce que je crois que c'est assez intéressant par rapport à ce que vous venez de nous dire. Rendre en tout l'invisible sensible, c'est le double, le reflet, l'envers d'une aventure intérieure dans une espèce de boulimie ludique, etc. Alors, comment est née la nouvelle fiction et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ? Parce que je crois que le mouvement en tant que tel est en sommeil actuellement.
Ça n'a jamais été un mouvement au sens du surréalisme ou de etc. Enfin, mais c'est un certain nombre d'auteurs qui ont un peu les mêmes idées. Et dans ces idées, se rejoint complètement la notion justement de conte et de fantastique, de fable, et surtout de la manière d'être du conteur. Comme nous nous rendons compte, nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas dire le réel, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas dire le réel, nous sommes obligés de passer par des livres, par des thèmes, par des mots, des phrases, des façons de dire, des schémas narratifs déjà existants. Je veux dire par là que ce mouvement de la nouvelle fiction s'est soudain aperçu petit à petit, et chacun de ses membres de façon différente, mais que finalement, s'il y avait, et là nous sommes tout à fait dans ce sujet, s'il y avait une référence à ce qu'on écrit, s'il y avait un référent, ce ne serait pas la réalité, mais ce seraient les autres livres. Nous ne racontons pas la réalité parce qu'elle est impossible à raconter, mais nous racontons d'autres livres qui ont eux-mêmes essayé, nous re-racontons plutôt, d'autres livres qui ont eux-mêmes essayé de raconter la réalité. Voilà. C'est pour ça que nous avons, comme le conteur, nous exploitons beaucoup les récits traditionnels, les mythes, etc. Et finalement, nous avons, tout en n'appartenant pas au monde précis du conteur, nous avons exactement la même démarche.
Merci, merci François. Bruno de la Salle, vous appartenez au monde des conteurs, ô combien, puisque on peut dire que vous êtes conteur professionnel, mais vous êtes aussi le fondateur et le directeur du CLIO, le Conservatoire Contemporain de Littérature Orale, qui a été créé en 1981, je crois, pour la recherche, l'apprentissage de l'art du récit et de l'épopée. On va revenir à l'épopée tous ensemble. Vous êtes un homme de radio, vous avez mis en place des festivals de conteurs, vous avez créé l'atelier Fahrenheit 451, un site internet pour la promotion de l'oralité, le premier salon du livre de contes et des contours, EPOS, le festival des histoires à Vendôme, etc., etc. Et il y a une citation de vous que j'aime beaucoup, alors je vais vous demander de la commenter. Vous avez dit, j'ai mis les guillemets, donc vous l'avez dit, « Dire une épopée, c'est s'obliger à dire une vérité vivante qui creuse, qui interroge, qui met en péril et aussi en joie, de toute façon en émoi. Une vérité salvatrice. » Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à vos propres propos que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup?
Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué de dire une chose pareille. Oui, peut-être ce qu'on pourrait dire sur une épopée, c'est là vous parlez du pouvoir du récit, c'est dommage que vous n'ayez pas rajouté de la parole, parce que le récit, oui, si ça n'est pas de la parole, c'est déjà un peu moins un récit. C'est peut-être, enfin, le pouvoir du récit, j'essaie de réfléchir avant de nous rencontrer. Pourquoi, d'une part, pourquoi le premier pouvoir du récit, c'est de m'avoir intéressé, et vous aussi, peut-être. Évidemment, comme j'ai eu la chance, et certains d'entre nous l'ont eu, de réfléchir sur ce qu'était le récit, puisqu'ils n'avaient gagné leur vie en racontant des histoires, qu'ils en lisaient, qu'ils écoutaient les autres aussi, et qu'ils voyaient combien, depuis longtemps, le récit fait partie de l'humanité, et peut-être l'humanité n'existerait pas s'il n'y avait pas une tentative, peut-être une illusion d'un récit, c'est-à-dire d'une histoire qui aurait un sens, qui aurait un début et une fin au sens d'objectif. Nous ne chercherions pas à écouter et à raconter des histoires. Peut-être est-ce une illusion, mais en tout cas, elle nous habite de façon permanente. Et finalement, ceux qui écrivent ou qui racontent des contes et dont on achète les livres ou dont on écoute les performances sont délégués pour aider chacun d'entre nous à réfléchir. Et peut-être que l'autre pouvoir du récit est du récit parlé autant que possible parce qu'il est direct, parce qu'il est dans l'instant, parce qu'il est dans les corps qui partagent ce récit. Le récit, ça n'est pas une affirmation, c'est une question. Et qui nous fait au moins, éventuellement, envisager que nous avons une raison d'être.
Oui, oui, c'est, si je comprends bien, c'est, ça tient aussi à l'art de la parole, enfin, ce moyen de communiquer autour d'une histoire, directement, avec des mots, verbalement, et sans doute de créer dans l'esprit de l'auditeur, parce que là, on est face à un auditeur, vous êtes conteur, je le répète, tout un univers imaginaire dans lequel il a à s'immerger avec vous selon votre talent. Je pense que être conteur par l'oralité, effectivement, ça me semble être un peu autre chose que les deux témoignages que nous venons d'entendre. C'est vraiment une communication directe, je dirais, d'ordre physique, et qui génère certainement cette communion comme peut-être un spectateur face à un tableau. Pour vous, est-ce que vraiment cet art de la parole, il est vraiment porteur d'une expression artistique à part? Est-ce que c'est quelque chose que vous concevez différemment d'autres modes de communication? Je pense en particulier à l'écrit, parce que l'écrit aussi est porteur de récits.
Écoutez, peut-être, en tout cas, avant que essayons de distinguer, parce que le récit, je viens d'essayer d'en définir l'objet, ou vous parliez de pouvoir, c'est de ce que ça peut apporter, que ce soit écrit ou parlé. Mais lorsque ça a d'abord été parlé avant d'être écrit, encore que ça se discute, mais quand même très largement, ça a été la première invention de l'humanité, et ça n'est pas son invention d'ailleurs tout à fait. En tout cas, c'est elle qui l'a accueilli, la possibilité de communiquer avec l'autre, par des signes invisibles et sonores, et qui sont produits par notre corps et perçus par le corps de l'autre. La parole n'a toujours été qu'un reflet, l'écriture n'a été qu'un reflet, une tentative de sauver une mémoire en danger, soi-disant, et Platon en parle très bien, comme vous le savez. Et c'était définitif ce qu'il a dit sur c'est que un message dont on ne connaît pas le producteur, et que le producteur ne connaît pas le message qu'il envoie à quelqu'un d'autre, c'est impossible de communiquer de cette façon. Et c'est impossible de communiquer lorsqu'on n'est pas dans le même instant. Et peut-être je fais des discours de radotage, mais aujourd'hui, il y a eu une chose qui s'est, aujourd'hui, je veux dire au XXe siècle, c'est qu'on a inventé l'enregistrement. Et dès lors, la parole s'est retrouvée acculée au même danger que ce que l'écriture possédait. C'est-à-dire que maintenant, les enregistrements que nous entendons ne sont plus une parole directe, instantanée, comme elle l'a toujours été, de façon vivante. Ça n'est pas un inconvénient total. On a du coup la mémoire des paroles. J'écoutais à France Culture, évidemment, avant-hier, peut-être ou hier, quelque chose sur Tolstoï. Et on entendait Tolstoï parler, mais on ne le voyait pas, il n'était pas là. C'était déjà une poussière. Et l'écriture, c'est un peu ça aussi. Ça n'est pas, justement, elle n'est pas une poussière, parce qu'elle demeure le temps que le papier veut bien conserver, ou que l'Internet conservera, mais ça n'a pas la vivacité, la capacité d'alimenter l'ensemble de celui qui perçoit ce que je suis en train de vous dire, ou ce que vous êtes en train d'écouter, puisqu'en m'écoutant, vous participez aussi. Il y a quelque chose que nous partageons physiquement. Voilà, c'était sur le... Mais le problème du récit est encore autre chose. Vous voyez, c'est le... Et le fait qu'il se charge de prononcer un récit, c'est un voyage dans le temps, dans la mémoire et dans l'oubli aussi. dans l'oubli. Vous voyez, on peut dire ça.
On peut dire dans l'éphémère. Enfin, c'est ce que vous voulez dire aussi. C'est le
non, le c'est pas. C'est, vous utilisez deux termes qui sont. Vous en utilisez un. Oui. C'est l'éphémère et l'autre. C'est le souvenir.
Bien sûr.
Le souvenir n'est pas éphémère. Il peut l'être. Ouais. C'est nous qui sommes éphémères plutôt. Bien plus.
Le souvenir peut-il se transmettre ?
Le
souvenir peut-il se transmettre ?
J'ai cru que vous disiez le sourire.
Non, le sourire, il peut. Mais le souvenir, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... je pense que c'est vraiment marqué la différence. Enfin, je crois qu'il n'y a pas du tout d'antinomie entre la parole, le récit verbal, le récit du conteur et le récit écrit.
Non, pardon de vous interrompre.
Parce qu'il y a pas,
encore voilà. Une chose, c'est que la parole est une partie, l'écriture est une partition. C'est une partition de parole. Et si elle ne l'est plus, elle perd de sa valeur. Et par contre, il faut redonner de la valeur à la parole et qu'elle ne soit plus tout le temps l'objet de mensonges ou de détournements ou d'illusions fabriquées.
Oui, ça c'est encore autre chose, on va en parler tout à l'heure, effectivement. Où est le réel, où est la vérité, malgré tout, la vérité, elle est quelque part.
Vous savez, pour un conteur expérimenté se prévaut toujours de ne faire que mentir. Mais et donc de d'échapper au réel en quelque sorte. Mais en fait, on ne peut pas échapper au réel.
Mais la fiction finit par avoir la force de la réalité, voire plus de force de la réalité. Les grands personnages.
De toute façon, tout est réel.
Les grands personnages de nos légendes, de nos épopées, sont totalement réels aujourd'hui, même encore dans nos sociétés. Les personnages de la guerre de Troie, ils existent. Hein. C'est certain. Ils existent.
Peut-être ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le récit, c'est aussi que c'est une ce sont des actes. Mmh. Un récit n'est fait que de verbes. Ce sont des actes. Et je suis frappé, vous voyez, j'ai eu la chance d'apprendre disons, la moitié de l'Odyssée par cœur et de la réciter. Quelquefois, je m'arrête, donc je dois la remettre en tête. Et c'est frappant de voir dans Homère, il y a des verbes tous les trois mots. Il n'y a que des verbes. Que des verbes.
Nous sommes en pleine action.
C'est ça.
Henri Gougaud, je ne sais pas s'il faut vous présenter, quand même, je vais me faire plaisir. Vous êtes écrivain, conteur, homme de radio, poète, chanteur, un homme qui chante aussi. Vous êtes devenu raconteur de nouvelles fantastiques, vous avez publié des romans, des recueils de contes, de légendes, un almanach, vous êtes des organisateurs de soirées, j'adore le grand parler, j'adore ça, rien que d'entendre ça, ça me chante à l'oreille. Et vous, c'est vraiment une pratique jubilatoire, en quelque sorte, me semble-t-il, de votre art. Cette vie qui, en quelque sorte, s'inventerait chaque jour autour du récit qu'on peut en faire et de la parole que vous voulez bien lui accoler. Vous avez publié en 2017 Kalawaya, entretien avec Shurla, chamane bolivienne. La clé des cœurs en 2017, en 2019, c'est plus récent, Le jour où Félicité a tué la mort, ça c'est chez Albin Michel, un roman entre guillemets à mourir de rire, chronique villageoise désopilante sur la vie, la mort, après, voilà. Vous avez entendu plusieurs façons un peu là, trois manières un peu différentes, même si on peut se dire qu'elles sont complémentaires, mais d'envisager le récit, la transmission du récit. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout ce que nous venons d'entendre et par rapport à ce qui est votre art à vous spécifiquement?
Comment je me positionne? Je me retrouve et ça me paraît assez naturel. Pour la plupart des choses qui ont été dites par Bruno, on est d'accord. Bien sûr, on en a souvent parlé ensemble, tout ça, mais nous sommes tous les deux des oraux. Zorro est arrivé. Avant d'être des...
Sans se presser.
Voilà. Et forcément, on a réfléchi sur le récit de manière différente de ce que peuvent penser les écrivains. Quand même, j'ai fait les deux, moi. J'écris et je raconte. Et je vois bien l'énorme différence qu'il y a entre les deux. D'abord parce que l'écriture est une activité solitaire, austère. On est en plein dans une sorte de fiction, au-delà de ce qu'on raconte. On est dans une sorte de fiction parce qu'on parle à un lecteur fictif. On ne sait pas à qui, mais on parle à quelqu'un. De toute façon, quand on écrit, on parle à quelqu'un d'imaginaire. Mais on parle à quelqu'un, sinon on serait fou. Sinon, on serait des gens qui parlent tout seuls, quoi. Alors que quand on raconte, on est en prise directe sur une réalité qui sont les gens en face de nous. On est en train de faire quelque chose ensemble quand on raconte. Un récit oral, c'est un récit partagé et dans l'instant, je veux dire, pas de manière différée. Évidemment, on va pas, quand on écrit un texte, un roman, on va partager son récit avec des gens qui vous liront, mais plus tard, et on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Alors que quand on parle, quand on raconte à des gens, on est en train de célébrer une messe joyeuse, une messe peut-être hérétique, une messe qualifiée là comme vous voudrez, mais on est en train ensemble de célébrer un rituel qui n'a rien à voir avec les questions de vérité, mensonge, réalité, fiction. Ça n'a pas de sens tout ça pour nous. Ça n'a pas de sens. Que la réalité, la fiction, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que c'est que la fiction? C'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais par rapport à quoi? Par rapport à quelle réalité? Et peut-être on peut parler éventuellement de réalité au pluriel, les réalités. Mais la réalité, je ne sais pas ce que c'est. Moi, la seule réalité que je connais, c'est le visage de la personne qui, en face de moi, écoute l'histoire, la bouche ouverte et les yeux grands. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est quelque chose de l'ordre d'une communion. C'est pour ça que je parle de messe joyeuse, bien sûr. Voilà. On est... D'abord, c'est ça, la réalité, la fiction, je ne sais pas ce que c'est. Et ça ne se pose, la question ne se pose pas, d'ailleurs. La question ne se pose pas. Je raconte un conte, ou Bruno raconte une histoire, un conte à des gens qu'il a en face de lui. Évidemment, c'est un conte. Évidemment que ce qu'on évoque dans le conte n'a pas de réalité tangible. On ne va pas rencontrer une fée ou un lutin au bord de la route. Bon, quoique. Mais enfin, ça n'a pas de... soi-disant de réalité. La raison de chacun d'entre nous lui dit que ce qui est en train d'être raconté n'est pas vrai, ne rentre pas dans ce qu'on connaît de la réalité. Et on en connaît très, très, très peu de la réalité. Bon. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre dans les gens. Et la personne qui en vous a la larme à l'œil à la fin de l'histoire. Hein ? Qui c'est ? Elle croit en quoi? Pourquoi elle a la larme à l'œil? Parce que je viens de dire quelque chose de manifestement pas vrai et pourtant qui vous fout la larme à l'œil? Mais c'est quoi ce truc? C'est vrai, la personne qui a la larme à l'œil, elle le croit. Elle le croit que les deux héros se marient à la fin et qu'ils sont heureux. Et elle pousse un soupir de soulagement et elle est contente. Et celle-là croit que ce que j'ai dit est vrai. En tout cas, ça correspond à quelque chose qu'il ressent. La réalité n'existe pas. La vérité, c'est éventuellement quelque chose que l'on ressent, mais qu'on ne peut transmettre qu'à travers une émotion partagée. Voilà.
Le sujet, c'est la métamorphose du réel, en fait. Je crois que le réel et la réalité, on peut peut-être faire une petite distinction entre les deux. Et je crois que là, c'est cet aspect métamorphose, je crois, qui se dégage, moi, de ce que j'entends, de ce que vous dites. Oui, il y a une métamorphose à travers l'art des écrivains, mais probablement et certainement et indiscutablement à travers celui du conteur aussi. Les lutins, bien sûr qu'on ne va pas rencontrer des lutins, mais grâce à cette métamorphose, on les rencontre par l'imaginaire. Et à force de les rencontrer par l'imaginaire, ces lutins, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme les nains de Blanche-Neige. Moi, je maintiens que les nains de Blanche-Neige, ils existent, comme Tintin existe. À force d'avoir été concerné par ces personnages, d'avoir partagé avec eux des sentiments, des aventures, ça devient une vérité. Une vérité. Et je crois que c'est ça qui est important et je crois que c'est ça qui nous réunit tous.
Je veux dire, c'est pas comme ça que j'aborde les trucs. Que Blanche-Neige soit une réalité. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Devienne une réalité. Deviennent vrais. C'est pas ça qui est intéressant. L'intéressant, c'est que pour l'enfant qui regarde Blanche-Neige ou l'écoute, elle devienne une amie.
Bien sûr.
Pas une réalité, on s'en fout. Par contre, de ce qui nous lie du point de vue de la sensibilité, du sensitif, de ce qu'on ressent, pas oublier qu'on a deux sortes d'intelligence quand même. C'est l'intelligence analytique, l'intelligence rationnelle, etc., ce qu'on appelle le mental, et l'intelligence sensible. En général, quand on parle de réalité, on parle de ce qui est perceptible, décidable par le mental, par la rationalité, l'intelligence, etc. Alors que, évidemment, le monde sensible, tout notre univers sensitif, des choses ressenties, quoi, on l'a laissé beaucoup en friche, d'ailleurs. Il y aurait trop de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas les dire, mais enfin, quand on se met à cultiver cette part de nous-mêmes, on s'aperçoit que oui, le mental peut n'être pas d'accord. Mais enfin, je ne sais pas, c'est comme si vous disiez que est-ce que la poésie décrit la réalité ? Et pourtant, la poésie est plus indispensable que toute autre chose.
Mais elle peut être métamorphose du réel, qui est notre sujet de départ.
Mais je sais pas, vous dites elle ça peut. Très bien, formidable. Mais vous savez ce que c'est que le réel, moi je ne sais pas.
Ouais.
Donc je ne peux pas parler de métamorphose.
Le réel, j'y suis confronté.
Je ne sais pas ce que c'est le réel, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je raconte et que je dis « il était une fois », je suis en train de dire que je balaie les ténèbres de l'univers comme ça avec mon phare et que je m'arrête sur une fois quelque part dans l'arborescence des temps. Voilà, c'est tout. Et y a pas, et la question de la vérité ne se pose pas. La question de la vérité ou du mensonge ne se pose pas quand on raconte une histoire. On adhère, on est ému, on est avec. On est ensemble ou on ne l'est pas. Créer du lien, créer de la relation. Je parlais de la relation tout à l'heure par rapport à la communication. Il ne s'agit pas de communication, il s'agit de relation, c'est-à-dire de se relier. Le mot relation qui a donné religion d'ailleurs, mais qui est l'art de se relier ensemble, de faire en sorte que...
De communion, parce qu'au même, fond, employons un grand mot, mais c'est ça.
Si vous voulez, de communion... mais de faire en sorte qu'on ne se sente plus seul simplement parce qu'on partage la même émotion à un moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les discussions sur la réalité, le mensonge, la fiction. Bon, oui, ça se discute. Non, et déjà, le seul fait de raconter une histoire... Le seul fait de raconter une histoire en sous-texte non dit, il y a cette idée que la vie a un sens. Voilà, déjà.
En tout cas, nous lui en donnons un en faisant ça.
Mais oui.
Andrea Zubialt, vous allez nous faire la synthèse de tout cela sans le moindre problème.
J'ai essayé.
D'autant plus que vous êtes musicienne. Piano, guitare, jazz, rock, blues, formidable. Et vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, la fondatrice, cofondatrice de Why Story, le laboratoire des arts de la narration. Alors, écoutez, je vous passe la parole tout de suite parce que moi, je sais ce que c'est. Donc, mais ce serait mieux que ce soit vous qui le disiez. C'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre parce que vous intervenez sur un très vaste territoire qui est peut-être un peu plongé dans l'ombre ou dans la semi-obscurité. Et comment vous allez faire pour l'éclairer? Dites-nous tout ça.
Alors oui, donc j'ai cofondé West Stories avec mon associé qui est metteur en scène il y a 2 ans et demi. Et tout le projet de West Stories, c'est d'ouvrir un lieu consacré au récit, à son rôle et à son impact dans le monde d'aujourd'hui. Et donc ce qu'on fait, c'est de la recherche, du développement de pédagogie autour de l'artisanat du récit, comment construire une histoire, et de la production d'œuvres narratives du coup. Donc on organise des programmes de formation et d'incubation pour des jeunes ou même pas si jeunes artistes de tous horizons. Donc il y a des conteurs, il y a des écrivains, mais il y a aussi des metteurs en scène, des réalisateurs, des scénaristes, des écrivains pour le théâtre. Enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent travailler avec le récit en fait. Et donc une des choses qu'on fait justement, c'est travailler sur comment créer une histoire à partir d'un vécu, d'une idée, d'un sujet qu'on essaye de s'approprier. En tout cas, les personnes qui viennent nous voir, c'est toujours avec un désir de création par rapport à quelque chose qu'elles ont vécu, quelque chose qu'elles ont expérimenté, qu'elles ont vu ou qui en fait brûle à l'intérieur d'elles. Et on essaye de voir avec eux comment travailler à partir du sensible, à partir des mythes aussi, donc des figures en fait de l'imaginaire collectif qui vont réapparaître dans leurs œuvres, et travailler sur la forme, le voyage du héros, enfin toutes les manières qui peuvent exister de mettre en récit un message. Voilà. Et donc par rapport à ce qui s'est dit, c'est vrai qu'il y a un axe assez intéressant qu'on essaye d'aborder, c'est celui du pouvoir du récit justement. Et on en parlait, enfin Alain Damasio en parlait, François Coupry aussi. On essaye de mettre l'accent sur le fait justement que, je ne sais pas si réalité, fiction, tout ça, mais qu'une histoire, elle donne sens à une réalité qui n'est peut-être pas accessible. Et à partir de là, en fait, ça engage une certaine responsabilité, puisqu'on va promouvoir une certaine vision de notre monde et à l'intérieur de laquelle on va pouvoir agir d'une certaine manière, mais on écarte d'autres manières de faire. Et donc on essaye de travailler sur ça avec nos participants, sur le fait que tout de suite prendre la parole et créer une histoire, c'est aussi véhiculer une certaine lecture de notre monde. Et donc ça engage une responsabilité. Quelle est cette vision-là qu'on essaye de mettre en avant ?
Oui, c'est donner forme à notre société en quelque sorte, hein. Créer les conditions pour l'émergence de nouveaux récits, c'est ce que vous cherchez à faire. Alors vous le faites, je pense que c'est important, auprès d'un public assez vaste, hein, des metteurs en scène, des écrivains, des photographes, des scénaristes, des musiciens, des réalisateurs, des artistes plasticiens, des performeurs, des chanteurs, des journalistes, des communicants, etc. C'est vraiment de la formation ce que vous faites. Mais moi, ce que je voudrais que vous puissiez communiquer, parce que c'est assez complexe quand même à comprendre, peut-être par l'exemple. Par exemple, qu'est-ce que ça peut permettre, où est-ce que ça peut permettre d'aller à un metteur en scène, à un scénariste, à un chanteur, à un journaliste, à un communicant d'entreprise? Dites-nous, essayez de nous dire concrètement, nous expliquer où est la différence entre avant et après.
Donc, c'est vrai qu'une des ambitions de White Stories, c'est de créer les conditions pour créer des récits. Et donc, je pense qu'une des valeurs qu'on apporte par rapport à formation ou expérience que ces personnes ont pu avoir dans le passé, c'est de mettre le récit au centre de tout, en fait. Ce qui fait que ça devient quelque chose de très transversal. Et les personnes qui viennent peuvent se retrouver, non pas uniquement si je suis réalisatrice avec d'autres réalisateurs, mais avec quelqu'un qui va être dans une autre discipline très différente, mais qui se confronte aux mêmes contraintes. C'est celle de créer une histoire, celle de produire une œuvre artistique, celle de mener une recherche artistique pour construire un récit. Donc c'est là, je pense, qu'est toute la valeur de la chose. Et donc si je prends des exemples plus précis, on a pu avoir des jeunes écrivains, par exemple, qui se lançaient dans un premier roman de science-fiction et qui n'ont pas, en fait, juste l'artisanat de la narration. Donc ça, c'est quelque chose d'assez technique et c'est concret qu'on peut leur fournir. On peut avoir aussi, par exemple, des metteuses en scène qui se sentent isolées dans leur travail de création au jour le jour. Et donc, en fait, on offre un espace dans lequel elles peuvent, ou ils peuvent, mais surtout des femmes en mise en scène, qui peuvent, où elles peuvent, en fait, avoir un regard extérieur, bénéficier de retours en fait d'intervenants, d'experts. On invite des personnes comme celles qui sont à cette table ronde en fait, qui ont déjà un parcours et qui peuvent les aider à travers des échanges, à travers le travail sur des outils, à travers des cas d'études, à avancer sur leur œuvre à elles. Donc je pense que ce seraient les deux axes sur lesquels nous on travaille et qui apportent quelque chose.
C'est des travails en groupe, c'est-à-dire que ce sont des groupes de stagiaires en quelque
oui,
sorte.
Oui, donc les promotions c'est 3 mois, c'est un parcours très long.
C'est pas 3 mois tous les jours, c'est par séquence.
Exactement, c'est à temps partiel, donc c'est 2 jours et demi par semaine. Et l'idée c'est qu'il y a toute une première partie du parcours où on est vraiment en formation, donc c'est des groupes de 5 à 15 personnes maximum, donc petite promotion, où ils vont rencontrer des intervenants qui les suivent tout le long et qui fournissent des outils, qui travaillent avec eux. Et la deuxième partie, on est vraiment centré sur leur projet. Donc ça devient de l'accompagnement. Et là, on a vraiment des accompagnateurs qui travaillent sur tout ce qui est l'imaginaire autour de l'œuvre, la recherche iconographique, la gestion de projet aussi, etc., etc.
La responsabilité commence dans notre imaginaire, c'est ça en fait.
C'est ça, exactement.
Mais vous apprenez pas à écrire, vous apprenez pas à dire. C'est-à-dire à compter, c'est pas ça. Ce que vous faites, c'est vraiment permettre, si je comprends bien, permettre l'occupation du vaste territoire de l'imaginaire et après de voir comment gérer ce qu'on y découvre. C'est ça, en fait.
Oui, exactement, c'est ça, oui.
Bon, ouais,
donc
l'idée,
c'est... Parfois, c'est pas facile à cerner. Mais c'est ça, c'est qu'il existe en effet des écoles de théâtre, des écoles de... arts plastiques, des écoles d'écriture, il y en a de plus en plus aussi. Mais là, on est vraiment sur le geste narratif et sur l'engagement qu'il y a derrière, sur le positionnement en fait, du narrateur dans une société qui est très, très, très narrative et dans laquelle le récit en fait, prend une place très importante et un gros impact par rapport à nos libertés, à nos choix en fait, d'action.
C'est sûr que nous sommes dans une société où la narration prend de plus en plus d'importance. On a eu l'occasion d'en discuter tous les deux ce midi, pour le pire comme pour le meilleur, entre parenthèses. C'est un peu un autre débat, mais malgré tout, nous sommes face à cette problématique. Vous allez même jusqu'à donner les moyens éventuellement de gérer un projet artistique. C'est quoi gérer un projet artistique ? C'est le gérer artistiquement, certes, mais est-ce que c'est aussi le gérer matériellement ?
Oui, donc ça c'est une autre partie de ce que nous on propose. L'idée c'est que le fait de créer une histoire, en fait cette histoire-là, elle n'existe vraiment que si elle arrive à toucher quelqu'un qui va la recevoir. Et donc dans cette optique-là, cet impact, il doit être mené à travers aussi la réalisation de l'œuvre. Donc on est dans la gestion de projet, ça peut être très vaste. Donc ça va de comprendre en fait quelles sont les forces actives qu'on peut rassembler autour de l'œuvre pour faire en sorte qu'elle existe. Donc où est-ce que je vais diffuser, où est-ce que je vais créer des rencontres avec un public, qui je vais ramener autour de la table pour créer cette histoire, si je fais une pièce de théâtre par exemple, qui peut relire en fait mon roman, qui peut y participer. Donc ça, voilà, on parle plutôt du réseau. Et après bien sûr il y a tout ce qui est plutôt lié à la production. Donc là, on est sur le modèle économique et surtout la manière de parler en fait de ce qu'on crée et de la valeur que ça apporte. Donc on travaille beaucoup sur cette perception de la valeur qui, à mon avis, aujourd'hui, il y a une infravalorisation, je ne sais pas si on dit ça, une sous-estimation de la valeur que peuvent apporter les récits et les œuvres artistiques aujourd'hui. Et donc on essaye de travailler avec ces jeunes artistes sur comment parler de leurs projets pour que leur voix soit entendue par les pouvoirs publics, par les financeurs, par des partenaires, etc.
Vous adressez prioritairement à des jeunes artistes, j'ai bien compris.
Alors,
ça fait plusieurs fois, vous le dites.
Je sais. En fait, on a plein de jeunes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ont une carrière assez longue, donc peut-être 20-30 ans d'expérience, et qui peuvent remettre en cause la manière qu'ils ont eu de faire les choses, ou parfois qui n'ont pas du tout été dans la narration, et qui se tournent vers cette forme artistique.
Le storytelling, c'est un joli mot français, c'est un peu ça, oui. mettre bout à bout les éléments du réel pour en faire une histoire, absolument. Donc ça veut dire, pour conclure, qu'à votre avis, on peut apprendre à construire des récits. Ça s'apprend. C'est une question que je vous pose. Je vous demande votre avis. Je ne commenterai pas ce que vous allez répondre.
Oui.
Je vous laisserai responsable de ce que vous allez
dire. Ça marche. Oui, donc nous, on pense que ça peut s'apprendre, en effet. Et par contre, on est convaincu qu'il n'y a pas une recette. Parfois, on trouve ça sur Internet quand on cherche storytelling. Il y a une recette avec les étapes, tout ça. Donc non, on ne croit pas trop à ça, mais plutôt au fait qu'on peut aller voir dans les récits qui existent, les ouvrir, regarder à l'intérieur et comprendre en fait comment ça marche. Et savoir qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'il y a des principes, il y a des choses qui reviennent. Il y a voilà, des outils qui sont utilisés par beaucoup de créateurs à travers, voilà, à travers l'histoire. Et donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est prendre ces objets narratifs, les ouvrir, les comprendre, et aussi inviter du coup des maîtres de la narration qu'on appelle, donc des personnes qui font ça parce qu'ils sont écrivains ou parce qu'ils sont conteurs ou parce qu'ils sont metteurs en scène. Et on crée en fait les conditions pour qu'un échange soit possible avec des personnes qui se posent la question. Voilà.
D'accord. Combien de sessions par an ?
3 sessions par an, à partir de cette année. Avant, c'était une, maintenant, c'est 3.
Et vous êtes à Paris ?
Voilà, on est à Paris, et la prochaine débute le 8 janvier, donc s'il y a des personnes...
Et vous êtes plein, il y a combien de places ?
Non, il reste encore quelques places, je pense 6 sur 15.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Bon, bah, bravo. Enfin, c'est une initiative intéressante, bon, qui tend à ouvrir l'imaginaire, l'art du récit à un vaste... entre guillemets, public.
Oui,
bravo. Bonne chance.
Merci. J'espère avoir fait une bonne synthèse.
C'est très, très bien. Merci à vous tous et merci de votre attention.
C'est la fin de cette table ronde. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une captation réalisée le 9 novembre dernier depuis les Rencontres du Légendaire, rencontre organisée par la compagnie AMSA dans le cadre du Festival du Légendaire. Un grand merci à la compagnie AMSA, à toute son équipe, à tous les participants de cette table ronde, ainsi qu'au conseil départemental qui nous accueillait dans les locaux de l'Aurélium à Chartres. Vous pouvez retrouver cette table ronde sur le site internet de Radio Grand Ciel, www.radiograndciel.fr.